Les cours du Collège de France, Jean-Marie Tarascon, chaire chimie du solide et énergie.
Bonjour à tous, bon après-midi. Aujourd'hui, on va poursuivre nos études sur les électrolytes solides et on va s'intéresser à des familles d'électrolytes, notamment les thiophosphates, et on va voir comment on peut aller des thiophosphates à l'argérodite et quelles sont, je dirais, les implications structurales. Alors pour ce faire, on va rappeler quand même les figures de mérite qui sont nécessaires dans le choix ou dans le design de nouveaux électrolytes. Il faut une conductivité ionique élevée, de l'ordre de 10-3, siemens par centimètre, je vous montrerai pourquoi. Une conductivité électronique très faible, car sinon on aurait de l'autodécharge. Il faut bien sûr des structures qui vont être propices à la diffusion du lithium dans la connectivité des polyèdres, une compatibilité aux interfaces chimiques et électrochimiques, et également des propriétés mécaniques, comme vous avez montré Christelle Laberté la dernière fois, et bien sûr des problèmes de coût et de compatibilité. Alors peut-être ce que je me dois de faire, c'est vous dire mais pourquoi finalement on cherche toujours des électrolytes à plus haute conductivité ionique. Et bien tout cela c'est relié aux applications. Et je vais vous donner un exemple relativement simple, indiqué ici. Ce que nous sommes en train de regarder ici, c'est finalement la variation du potentiel en fonction de la capacité pour une batterie tout solide, avec une charge de 20 mg par centimètre carré. Et vous voyez qu'ici, on utilise deux régimes qui sont directement C/20, c'est-à-dire qu'en ce compte-là, on va décharger en 20 heures, ou alors des régimes de C en 1 heure. Et ça, c'est un électrolyte de 1 millisiemens. Maintenant, si j'augmente ou si je multiplie par 10 la conductivité ionique, regardez le résultat, c'est-à-dire que dans ce cas, je vais avoir, avec des régimes plus élevés, la même capacité. Ça veut dire que j'aurai des systèmes qui seront beaucoup plus performants en puissance. Et de par là même, ça veut dire qu'en ce compte-là, je pourrai tout simplement assembler des accumulateurs avec des électrodes plus épaisses. Et c'est ce qu'on verra par la suite. D'où finalement, c'est la raison pour laquelle il y a cette course, je peux dire, effrénée vers des conducteurs ioniques qui ont de plus haute conductivité. Et de ce fait, on va, où la dernière fois on s'était intéressé aux oxydes, dont on avait vu les structures de type nazicon, les structures de type garnet, les structures de type perovskite et les structures de type lysicon, comme indiqué ici, dont la maille est constituée de tétraèdres qui partagent des sommets et des arêtes ensemble. Et rappelez-vous de cette structure, parce qu'on va y revenir aujourd'hui, ça va être finalement la source de cet exposé. Aujourd'hui, on va directement s'intéresser à l'autre famille, qui est la famille des sulfures. Et dans cette famille des sulfures, il va y avoir plusieurs types de matériaux qui vont être le système lithium-2S, P2S5. Il va y avoir les thios, les icônes, de formule lithium-4-X, germanium-1-Y ou PY-S4. Et également, on terminera sur la famille des argérodites, qui sont des composés de formule lithium-6-PS5X. Alors commençons directement par ces structures de type thiolysicone. Et là, ce transparent, je vais y passer du temps car il est relativement important et il montre finalement la philosophie qu'il y a derrière toutes ces recherches. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous ai montré la structure lysicone qui était finalement un composé préparé à partir de lithium-3PO4 et ZN2GO4. Et ce que vous voyez ici, si je prends lithium-3PO4, vous voyez qu'en ce cas, si je vais faire des substitutions au niveau des phosphores, c'est-à-dire des substitutions halieuvalentes par des cations de différents états d'oxydation, je vais pouvoir directement insérer du lithium ou mettre du lithium en site interstitiel, c'est-à-dire charger les structures en lithium. Et je peux aller ici au composé de lithium-3, lithium-4, voire lithium-5 à LO4. De la même façon ici, je peux m'amuser à retirer du lithium de ce composé en remplaçant au niveau du lithium par un atome libre. Je vais faire exactement la même chimie, maintenant pas avec l'oxygène, mais avec le soufre. Et vous allez voir que dans ce cas, on a exactement les mêmes choses. Vous voyez l'équivalent, lithium-3PO4, lithium-3PS4, ensuite lithium-4SiO4, lithium-4SiO4, là je vais pouvoir tout simplement passer d'un composé à un autre en jouant sur la substitution, soit au niveau de l'alcalin, remplacé en divalent par un monovalent, soit au niveau finalement du phosphore, en remplaçant par des éléments tétravalents, trivalents ou pentavalents. Donc voilà, si vous voulez, la chimie qu'on va regarder aujourd'hui. Alors cette chimie, on va la commencer dans le cas du système qui a été étudié, je dirais, un des plus vieux systèmes qui a été étudié, de cela 20 ans, les systèmes lithium-2S, P2S5. Eh bien, on va voir que dans ces matériaux, selon la quantité de lithium-2S ou P2S5, eh bien, on va pouvoir avoir des unités ou des briques structurales qui vont être différentes. On va pouvoir avoir des orthothiophosphates, comme indiqué ici, des méta-thiodiphosphates, voire des pyro-thiodiphosphates, dans lesquels, vous voyez ici, on va être directement, je dirais, connecté par le sommet, alors que là, on sera connecté par les faces. Et enfin, le cas où on peut avoir hypo-thiodiphosphate, c'est-à-dire qu'en ce compte-là, eh bien, on va tout simplement faire une liaison PP. Eh bien, tout ça, ça va directement constituer les briques élémentaires à l'élaboration de différentes phases. Et si on change ce rapport lithium-2S, P2S5, comme vous pouvez voir ici, eh bien, selon les rapports, on va avoir la phase lithium-3, PS4, qui va contenir, dans ce cas, des orthothiophosphates, vous les voyez très bien ici. On va avoir ensuite la phase qui est indiquée ici, qui va contenir des méta-thiodiphosphates, et ainsi de suite, pour arriver à celle-ci. Donc voilà les différentes structures. Alors ces différentes structures, c'est certainement une richesse, mais c'est également un cauchemar au niveau synthèse, savoir comment on va les synthétiser. Et parmi ces matériaux, c'est celui qui nous intéresse le plus, va être cette phase ici, qu'on appelle la phase lithium-3PS4 ou bêta-lithium-3PS4. Et vous allez voir pourquoi dans la suite. Alors effectivement, ce composé, lithium-3PS4, eh bien, a des structures relativement différentes selon la température. Et ce que vous regardez ici, c'est tout simplement des diagrammes de diffraction X qui sont collectés en fonction de la température. Et vous apercevez ici deux discontinuités aux alentours de 280 degrés C et ensuite aux alentours de 550 degrés C. Et vous regardez ici sur les courbes de conductivité ionique, eh bien, vous retrouvez exactement les mêmes domaines. Et dans ce cas, eh bien, on a une évolution de la phase gamma, qui est une phase basse température, à une phase température médium, je dirais, qui est bêta, et à une phase haute température. Et finalement, vous voyez que ces phases, elles sont toutes constituées de tétraèdres, si je peux dire, lithium S4 et PS4, et ainsi de suite. Mais c'est juste, finalement, l'orientation de ces tétraèdres et leur connectivité qui va changer. D'où par conséquent, eh bien, dans ce cas, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est d'obtenir celui qui a la meilleure conductivité ionique, c'est-à-dire la phase bêta. Alors cette phase bêta, eh bien, on va la préparer selon différentes méthodes. Et ces méthodes, c'est des méthodes relativement classiques, je dirais, en chimie du solide. On va utiliser la boîte solide. Alors attention, on est avec les oxydes, où on ne pourra plus travailler dans les milieux à l'atmosphère, dans les milieux normaux à l'air. Il faudra travailler, excusez-moi, dans des tubes en quartz qui vont être scellés. Et dans ce cas, pour éviter les réactions du quartz avec nos précurseurs lithiés, eh bien, l'astuce, c'est tout simplement de déposer, je dirais, du carbone à l'intérieur de ce quartz. Bon, généralement, la manip se fait, vous mettez un peu d'acétone, vous évaporez, et ensuite vous chauffez, et vous avez directement votre carbone qui se dépose sur le quartz. Ensuite, il va y avoir eh bien, la méthode qui est très, très utilisée pour le dessin, pour la conception de nouveaux conducteurs ioniques, qui est le broyage mécanique, car dans ce cas, rappelez-vous, les défauts sont importants et on va pouvoir introduire des défauts. Alors, là aussi, il y a plusieurs paramètres qu'il va falloir ajuster. Le rapport, je dirais, bille-produit. Et un des paramètres qui est assez intéressant, si on regarde la littérature, ce qui est assez nouveau, mais ce n'est pas tellement original, c'est-à-dire que le broyage, généralement, on fait des broyages continus. Maintenant, on va tout simplement avoir des broyages, je dirais, séquentiels. Mais maintenant, beaucoup de travaux consistent à faire des broyages en allant directement, en changeant la direction du broyage toutes les deux minutes pour faire du broyage, je dirais, pulsé. Et là, apparemment, ça apporte des avantages. Ensuite, il va y avoir la méthode de solution, que l'on verra aussi dans peu de temps, où on va, pour ces sulfures, eh bien, utiliser différents solvants. Et dans ce cas, eh bien, il ne va pas falloir utiliser, je dirais, des solvants, dans ce cas, aprotiques, parce que sinon, on pourrait avoir des réactivités avec les protons et former des phases de type HS, H3PS4, ainsi de suite, d'où on va, dans ce cas, eh bien, utiliser des solvants légèrement polaires, et un dont on regardera plus particulièrement sera THF. Donc voilà, si vous voulez, les méthodes de synthèse. Alors, si on regarde ça, eh bien, au niveau de lithium-3PS4, eh bien, c'est, voilà directement les différents composés, et là, on va directement varier, je dirais, le taux de lithium-2S et le taux de P2S5. Et là, rappelez-vous que dans ce diagramme, eh bien, il y a beaucoup de briques élémentaires et il va falloir comprendre ce qui se passe. Donc on va changer le rapport de ces deux composés et on va regarder par des techniques qui vont être ici du Raman, où on va regarder finalement la bande associée à ces différents polysulfures, okay, qui change selon qu'on est directement un ortho, un méta ou un pyro, et également la bande, on va regarder en RMN, et on va directement travailler sur le phosphore 31 pour avoir la signature, je dirais, ou l'empreinte de ces différentes espèces. Et grâce à cela, eh bien, on peut directement voir comment ces espèces vont évoluer en fonction de la teneur en Li2S. Et vous voyez ici, par exemple, qu'on va tout simplement passer du composé de la phase P3S7-3- à la phase PS4-3-. Et ça, eh bien, ça vous donne une idée de finalement la compétition qu'il y a entre ces différents matériaux. D'où, à partir de ça, eh bien, on peut ensuite, eh bien, par des mesures de synchrotron, établir finalement le diagramme de phase de ces différents matériaux en fonction de la température, en passant ou en partant une fois de plus de la variation de lithium-2S. Vous avez à basse température les verts, et vous voyez que la plupart des compositions, jusqu'à 70-75, eh bien, dans ce cas, il va y avoir une décomposition à haute température pour donner la phase hydro-thiodiphosphate, plus du soufre. Seule la composition indiquée ici, qui est une composition 75-25, eh bien, va s'avérer être la plus stable thermiquement, et c'est cette phase qu'on va étudier et qui va être utilisée dans les batteries. Alors pourquoi cette phase a un avantage? C'est parce que d'un côté, elle est stable thermiquement, et de plus, eh bien, elle présente des propriétés, je dirais, électrochimiques intéressantes, notamment, regardez ici, en termes de conductivité ionique, vous voyez, le fait de changer la composition, eh bien, vous multipliez par 100 la conductivité ionique, en passant des phases 60-40 à des phases 75-25. Et il se trouve que cette phase, et vous verrez par la suite, elle a encore d'autres avantages, eh bien, c'est elle aussi qui a tout simplement l'énergie d'activation la plus faible. D'où, ça vous voyez, la complexité quand même de ces matériaux dans lesquels on a, je dirais, des difficultés à connaître quelle est la phase résiduelle. Et pour montrer l'importance du procédé sur les propriétés de ces matériaux, eh bien, je vais utiliser cet exemple où, dans ce cas, c'est tout simplement un matériau qui est préparé par broyage mécanique, mais dans lequel on va changer les conditions de synthèse. Et vous voyez ici, je vais définir ce que j'appellerais un procédé continu, dans lequel je vais tout simplement, dans ce cas, broyer pendant 220 heures, ou 22 heures, pardon, et ensuite faire un broyage, je dirais, intermittent, ou alors directement un composé dans lequel le broyage, dès le début, eh bien, je vais faire un broyage de 15 minutes, arrêter 15 minutes, 15 minutes, ainsi de suite. Et si on regarde maintenant par les mêmes méthodes quelles sont les espèces qui constituent le produit obtenu, c'est-à-dire la poudre, eh bien on s'aperçoit ici que, vous voyez, les espèces sont totalement différentes. Donc ça veut dire qu'on est en train de stabiliser des phases différentes. Pourquoi? Parce que le broyage, ce que vous réalisez, c'est la conversion de l'énergie mécanique parce qu'en énergie chimique, d'où il va y avoir une certaine température, et cette température locale va changer selon, finalement, les méthodes de broyage. Et le résultat le plus important est au niveau des conductivités ioniques. Vous voyez ici, dans le cas du broyage direct continu, eh bien, j'ai des conductivités ioniques qui sont relativement faibles comparées à celles d'un broyage, je dirais, intermittent, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, l'importance du broyage, et on va voir encore un peu plus loin cela. D'où ça, c'était, si vous voulez, la difficulté avec ce composé lithium-2S P2S5. D'où, par conséquent, on peut essayer de simplifier la tâche et de faire ces synthèses par solution. Et ces synthèses par solution, eh bien, ça a été rapporté par un papier du JAX, je crois qu'il doit dater de 5 ou 6 ans, où ça avait été une découverte assez importante, dans laquelle certains chercheurs ont réussi à préparer la phase lithium-3PS4 ou bêta-lithium-3PS4 par solution. C'est-à-dire qu'en ce cas, voilà les ingrédients, les précurseurs de départ, qu'on va, je dirais, dissoudre, ou réagir dans le THF pour obtenir ce complexe lithium-3PS4-THF. Ensuite, on va retirer le THF et chauffer à différentes températures pour obtenir ce composé bêta-lithium-3PS4. Alors, le diagramme X vous donne effectivement la signature ou l'empreinte de ce composé, mais si on regarde d'un point de vue microscopie, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit d'abord que ce matériau est très bien cristallisé. Vous avez tout simplement, dans ce cas, des particules dont, je dirais, les facettes sont très bien déterminées. Mais ce qui est intéressant, et ce qui va faire la différence, c'est que ces matériaux, eh bien, c'est pas des cristaux, c'est-à-dire ces briques, ont une porosité. Et en effet, les chercheurs ont montré, par des mesures d'isothermes d'absorption, réalisées à 60 degrés K sous l'atmosphère d'azote, eh bien que, comme vous pouvez voir ici, on peut avoir des pressions induites P sur P0, on s'aperçoit que finalement, on a une nanoporosité aux alentours de 20 à 30 nanomètres. Et c'est cette nanoporosité qui a été interprétée, on y reviendra par la suite, comme, je dirais, importante pour la conductivité ionique. Et regardez, le fait de passer du matériau massif à du matériau préparé par solution avec cette morphologie indiquée ici et contenant des nanopores a permis d'obtenir, dans ce cas, des conductivités ioniques relativement importantes. Et bien sûr, la question, c'est de savoir pourquoi ce traitement, cette synthèse magique, que se passe-t-il ? Quel est vraiment le mécanisme réactionnel derrière tout cela ? Et ça, c'est les travaux qui ont été entrepris dans notre laboratoire il y a de cela 4 ou 5 ans, où eh bien, on a essayé de comprendre finalement les différentes étapes de ce mécanisme et leur influence sur les propriétés de conductivité ionique. D'où, par conséquent, on a joué sur deux facteurs. Facteur, comme indiqué ici, sur finalement le retrait du THF et le traitement dans lequel ce THF allait être retiré du matériau, c'est-à-dire la teneur en THF, et ensuite sur la cristallinité du matériau. D'où, grâce à cela, eh bien, on a pu finalement de nouveau étudier le système et comprendre que finalement ces composés, il n'était pas du tout monophasé, mais il y avait toujours coexistence de plusieurs phases. Et là, je vous résume un peu les résultats. Selon ces différents traitements, soit en jouant sur la cristallinité, soit en jouant sur le taux de THF, eh bien, on a des phases, qui est la phase complexe du matériau au départ, soit on a des amorphes, soit on a du cristallin. Et vous voyez qu'en certains matériaux, eh bien, il y a une quantité relativement importante d'amorphes. Et si on regarde les conductivités ioniques maintenant sur ces différents matériaux, eh bien, on s'aperçoit que ces conductivités ioniques, comme vous pouvez voir ici, elles varient selon les différents traitements, selon le taux de cristallinité. Et si je regarde le taux de cristallinité ici, eh bien, qu'est-ce que je m'aperçois ? C'est que finalement, dans ce cas, eh bien, plus le taux de cristallinité augmente, plus finalement la conductivité ionique décroît. Et de même, si maintenant je regarde la teneur en THF, eh bien, on a finalement un effet relativement similaire. Donc tout cela veut dire eh bien, que finalement, dans ce matériau, il y a certes la phase bêta lithium 3PS4 qui va conduire, mais il y a également une phase amorphe qui a une forte contribution aux conductivités ioniques finales du matériau. Donc voilà une fois de plus la complexité de ce système lithium 2S P25. Et enfin, pour terminer, si je peux dire la complexité, et la possibilité d'obtenir des conductivités ioniques relativement importantes, eh bien, je mentionnerai cette expérience dans laquelle, dans ce cas, une synthèse un peu différente, où vous voyez qu'on va, dans ce cas, utiliser le tube de quartz avec la protection par le carbone, et dans ce cas, on fait une fusion par trempe. C'est-à-dire qu'on va chauffer le matériau jusqu'à sa fusion, et on va le tremper. Et ensuite, eh bien, le traitement qui a été effectué va consister à tout simplement broyer le verre qu'on a obtenu pour obtenir des poudres qu'on va presser à froid, ou alors on va tout simplement, dans ce cas, les presser à 220 degrés pour deux, les chauffer à 220 degrés pour, 280 degrés pour deux. Et ensuite, on va faire un pressage à chaud. Et bien, quand on fait cela, là aussi, on a des conductivités ioniques qui sont, je dirais, exacerbées, où on peut obtenir maintenant du 1,7 10 plus à moins 3 siemens, c'est-à-dire 17 millisiemens par centimètre. Et ça, je dirais, c'est presque une valeur record dans ces matériaux. Alors, ces matériaux, eh bien, cette phase du moins, a une stabilité électrochimique, a priori, par ces simples coupes de cycle voltammétrique relativement correctes, et on y reviendra par la suite. Par contre, elle a une très bonne mouillabilité, ce qui permet, dans ce cas, mais de pouvoir construire, assembler des électrodes qui ont une performance relativement correcte, comme indiqué ici, vis-à-vis du lithium indium. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que l'on peut faire avec cette phase. Alors ça, c'est... Je vous ai montré la conductivité ionique, mais je dirais qu'il y a des aspects qui sont moins réjouissants. C'est finalement la réactivité de ces composés, tout d'abord à l'air, et voir ce qui se passe, et ensuite à l'humidité. Alors c'est, d'ailleurs, ces composés, lorsqu'on s'amuse avec ces composés, eh bien on peut, si j'arrive à faire ça, vous allez voir la réactivité de ces composés. Voilà, excusez-moi. Là, vous êtes en train de regarder une expérience dans laquelle on est en train de mélanger tout simplement cette poudre de lithium 2S P2S5 avec une cathode NMC. D'où, vous voyez qu'en ce cas, il y a une réactivité relativement conséquente. Bon, personne n'est mort, hein. C'était juste un bruit. Et voilà. Et ça montre finalement que ça va être une difficulté, c'est des composés qui étaient divisés. Et on peut regarder ce qui se passe. Et vous voyez ici, finalement, avant, finalement, bien, cette simple expérience dans un mortier avec un broyage, et ensuite. Et on s'aperçoit qu'il y a une décomposition totale du matériau avec formation des phases lithium 2S, lithium 3P, et ainsi de suite. Et bien sûr, tout ça est confirmé par des mesures XPS qui peuvent montrer définitivement par les bandes, on y reviendra par la suite, lithium 2S, lithium 3P, et ainsi de suite. D'où, définitivement, il y a des problèmes de sécurité associés à la manutention de ces matériaux et, bien sûr, l'importance, je dirais, de la taille, de la morphologie sera, je dirais, à prendre en considération lors du développement de ces systèmes. Ensuite, bien sûr, n'oubliez pas que ces matériaux contiennent du soufre et la première chose qui vient à l'esprit, c'est finalement que va-t-il en être de la réactivité à l'humidité, voire la H2S. Et bien ça aussi, c'est des manips qui ont été effectuées selon le protocole indiqué ici. Ce que vous regardez ici, c'est simplement un genre de dessicateur, enfin, un conteneur qui est tout simplement, je dirais, hermétique, avec un détecteur de H2S, un ventilateur, et vous mettez directement ici la poudre de lithium 2S PS5. Et là aussi, on va regarder une fois de plus quel va être le taux ou la réactivité en se plaçant sur des atmosphères humides, c'est-à-dire qu'on va être dans ce cas avec 50% d'humidité, et voir ce qui se passe. Et vous voyez qu'en ce cas, bien lorsqu'on va regarder en fonction de la teneur en lithium 2S, eh bien, dans ce cas, on s'aperçoit que les matériaux à faible teneur en lithium 2S, eh bien, ils ont quand même un H2S de 2 cm3 par gramme, alors que la composition, et ça c'est la chance, 75-25, a, je dirais, une réactivité qui est nettement plus faible. Alors là, attention, quand je dis nettement plus faible, vous voyez zéro, mais ça c'est juste directement après une minute. Okay. D'où il faut directement cumuler sur le temps. Et cette réactivité, je dirais, elle est plus faible, eh bien, c'est tout simplement dû au fait que dans ce composé bêta lithium 3 PS4, on a des espèces isolées PS4-, qui sont moins réactives à l'humidité. Et les réactions qu'on a, elles sont relativement classiques. Hein. La première réaction, vous prenez lithium 2S directement à l'humidité, eh bien, vous obtenez directement LiOH plus vous relarguez H2S. Et vous voyez maintenant, si je prends ici directement ce composé, qui dans ce cas est un méta-thiodiphosphate, et bien il va réagir également avec l'eau pour donner H2S. D'où, là aussi, je dirais, la réactivité à l'humidité, c'est-à-dire l'hydrolyse, bien, va être un point très important à considérer, d'ailleurs, pas seulement sur ce matériau, mais sur tous les sulfures que je vais traiter aujourd'hui. D'où voilà, si vous voulez, un peu ce composé lithium 2S dans le P2S5. Je voudrais maintenant bien passer au deuxième type de composé dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le thiolithicone. C'est la phase lithium 4 germanium PS12. Et c'est cette phase, finalement, comme je vous l'ai mentionné dans le premier cours, qui est à l'origine de toute la révolution qu'on est en train de connaître aujourd'hui dans le tout solide. Alors là aussi, pour montrer ce qu'est la chimie du solide, eh bien je vais tout simplement faire un petit exercice et vous montrer comment on cherche une nouvelle phase. Alors comment ? Eh bien je vais directement vous mettre ce pseudo-binaire ici. D'où là, si vous voulez, la question là, c'est, on sait que finalement, ce lithium 3 PS4, eh bien, on l'a vu, on connaît ce composé, il y a une structure directement gamma lithium 3 PS4, et je prends la phase lithium 4 GS4, eh bien à une structure différente. Et la question que l'on se pose, c'est-à-dire, est-ce que maintenant, si je balais directement cette composition, je peux isoler des phases différentes ? Alors pour ce faire, au niveau du laboratoire, eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous allez préparer différentes compositions et vous allez prendre le diagramme de diffraction X et essayer de comprendre si vous avez ou si vous réussissez à isoler des phases. Alors, par exemple, je vais m'amuser à prendre différentes phases, je vais m'amuser directement à me balayer sur l'onde de cet axe. Voyez ? Et je vais prendre des diagrammes de diffraction X au fur et à mesure que je vais changer la composition. Et vous voyez ce que j'obtiens ici ? Je m'aperçois que lorsque je suis dans ce domaine, eh bien, j'ai beau changer la composition, mon paramètre reste constant, ça veut dire que dans ce cas, mais j'ai certainement deux phases qui coexistent. Par contre, si maintenant j'arrive dans ce domaine, vous voyez que le paramètre de maille, ça veut dire que là, j'ai certainement une phase, c'est-à-dire j'ai une solution solide, d'où j'ai l'existence d'une phase. Et ensuite, eh bien, je peux aller à l'extérieur, comme on peut voir ici, et dans ce cas, eh bien, j'ai de nouveau deux phases. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut établir, je dirais, ou chercher, ou directement naviguer dans ce pseudo-binaire pour arriver à déterminer les domaines d'existence de phase. Et ensuite, bien sûr, là, on détermine une phase, on est en train d'avoir des poudres, et la question qui se passe, finalement, lorsque j'ai une phase, mais quelle va être sa propriété à haute température? Et pour ce faire, eh bien, on va tout simplement chauffer le composé. Alors bien sûr, on peut faire chauffer dans un tube de quartz et observer, mais par contre là, on va faire des mesures de calorimétrie différentielle où on va, une fois de plus, en fonction de la température, voir ce qui se passe. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, vous voyez que là, c'est là où j'établis ces fameuses lignes qui peuvent être, dans ce cas, malheureusement, pour la croissance cristalline, eh bien, on ne va pas directement être en zone tectique, okay, et on va avoir des variations avec deux paliers. Une première, ici, dans lequel je vois un pic, je crois, aux alentours de 550 degrés, et l'autre à 650 degrés, où je vais traverser la phase liquide. Donc, par conséquent, ayant cette information, et maintenant, je peux ajuster, je dirais, ma synthèse pour tenter d'obtenir des cristaux, bon, bien que la tâche ne soit pas facile ici, puisque cette phase a une fusion incongruente. Mais en jouant sur des astuces, je dirais, de quantité de composés, eh bien, on peut arriver à obtenir des cristaux, et c'est ce qu'a fait cette équipe japonaise du professeur Kano, qui a découvert cette phase en 2011. Vous voyez les cristaux de ce composé, lithium 2, 10, germanium, P2, S12, dont la composition chimique est indiquée ici, et qui correspond directement à cette formule. Et bien sûr, ayant des cristaux, eh bien, on peut, dans ce cas, résoudre la structure, et dans ce cas, voilà la structure qui est indiquée ici. On est en train de regarder une structure qui est tétragonale, dans laquelle, eh bien, formée de chaînes qui vont long de l'axe C, ces chaînes consistent directement à un partage d'octaèdre lithium S6 et de tétraèdre GEPS4, qui, dans ce cas, partage des arêtes et également des sommets, et vous voyez que ces chaînes sont connectées par des coupements PS4. Et cette structure, on peut la regarder de plus près et voir finalement comment se propage le lithium dans ces chaînes. Vous avez ici la propagation du lithium dans des chaînes en zigzag, en passant de site lithium S4 à lithium S4 différent, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, la structure de ce composé. Alors la question, c'était maintenant, quelle est sa conductivité? Bien, la conductivité ionique est indiquée ici. Elle a été mesurée, alors ça qui est intéressant, puisqu'on a un cristal, on peut maintenant, ce qui est rarement fait dans ce domaine d'ailleurs, on peut tout simplement mesurer ses conductivités ioniques, c'est-à-dire ce déplacement du lithium, selon différents axes cristallographiques ou selon différents plans de la structure. Et vous voyez qu'ici, eh bien, on peut avoir des mesures de conductivité ionique et on a, dans ce cas, des valeurs de 27 millisiemens l'onde à 0,01 ou 7 millisiemens de 1,0. Et ça, effectivement, eh bien, c'est tout simplement le composé qui a déclenché toute la recherche, car ces valeurs de 17 ou 27 millisiemens étaient les plus hautes jusque-là observées. Alors on peut ensuite, bien sûr, regarder quels sont les problèmes de diffusivité, de diffusion dans ce composé, et cela peut se faire par des mesures, je dirais, de diffusion quasi-élastique de neutrons, ou alors par des mesures de RMN. Eh bien, on arrive à des valeurs qui sont relativement, je dirais, relativement identiques, des valeurs de 8 10 moins 7 cm carrés par seconde. Voilà directement ce que l'on peut obtenir avec de tels composés. Alors bien sûr, dans ce compte-là, on a vu que finalement, on avait une haute conductivité ionique. La question qui se pose maintenant, toujours pareil, quelle va être la réactivité ou la stabilité électrochimique vis-à-vis du lithium? Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le premier papier qui est sorti sur ce matériau, bien les auteurs ont tout simplement annoncé que ce matériau était formidable, puisqu'il avait une stabilité électrochimique vis-à-vis du lithium qui était impeccable, comme on peut voir ici. Mais ça n'a pas duré très longtemps, car d'autres chercheurs ont tout simplement construit un accumulateur grâce à ce matériau. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas, vous voyez, ils ont tout simplement construit une batterie dans laquelle vous avez le même matériau comme électrode positive, électrode négative et séparateur. Donc dans ce cas, vous faites tout simplement l'électrochimie, et voilà ce qu'on obtient. On a tout simplement deux pics redox, comme indiqué ici. Ça veut dire qu'il y a une activité électrochimique. D'où ça veut dire que le matériau n'est pas stable vis-à-vis du lithium. Et effectivement, grâce à cette électrolyse solide, eh bien, on peut faire une batterie Et c'est ce que les auteurs ont fait. Ils ont construit une batterie avec le même matériau, avec du carbone pour l'électrode positive, bien sûr du carbone pour l'électrode négatif, pour améliorer, excusez-moi, la conductivité électrique. Et vous voyez qu'ici, on obtient directement ces courbes de charge et de décharge, ainsi de suite. Donc cela veut tout simplement dire que ce matériau, eh bien, a ou possède une instabilité électrochimique vis-à-vis du lithium, et on verra par la suite que même vis-à-vis de l'électrode positive, ce n'est pas glorieux. Alors la question qui se pose, c'est finalement, quelle est cette réactivité? Que se passe-t-il à cette interface? Alors pour faire cela, eh bien, on va utiliser les techniques d'XPS, qui sont mentionnées ici, c'est la spectroscopie de photoémission de rayons X, dont le principe est indiqué ici. Il consiste tout simplement à bombarder une surface avec des rayons X de longueur d'onde variée et de collecter les photoélectrons injectés par un détecteur pour en obtenir le spectre d'émission. Et puisque chaque photoélectron a une énergie qui est propre de l'élément chimique qui le donne naissance, eh bien, on peut avoir une idée de quelle est la composition des interfaces, ainsi de suite. D'où on peut avoir ces spectres d'émission, et ce qui peut se faire, c'est que maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cette fameuse face, ce fameux électrolyte lithium bis GPS2, sur lequel, eh bien, on va aller déposer du lithium, et au fur et à mesure qu'on va déposer du lithium, eh bien, on va regarder tout ce qui se passe au niveau des spectres d'émission. Alors ces expériences, elles ont été faites, eh bien, en regardant, comme vous pouvez voir ici, au spectre d'émission, au niveau du cœur S2P, au niveau du cœur germanium 3D, et au niveau du cœur phosphore 2P. Et là, oui, simplement, le temps de déposition, c'est-à-dire qu'on est en train de déposer, on augmente le temps. Et si on regarde ce qui se passe, vous voyez que maintenant, mais j'aperçois directement une activité avec des bandes d'énergie de liaison qui sont relativement, je dirais, plus courtes dans le cas de soufre, c'est-à-dire que j'ai évidence de la phase lithium 2S. Ici, je peux dénoter la formation de germanium, et là-bas, eh bien, j'aperçois directement, en regardant au cas du phosphore, une croissance de la phase isotropée. Eh bien, tout cela veut dire tout simplement que j'ai une décomposition du matériau à cette interface. Alors, on verra plus tard que cette décomposition, elle n'est pas dramatique, parce qu'elle va être directement, je dirais, self-limitante. Mais il n'empêche que la réaction que l'on a est une réaction qu'on connaît très bien, qu'on avait découvert dans les années 2000, qui est une réaction de conversion. Vous avez le lithium qui va directement réagir avec ce composé pour donner seulement les phases lithium 2S, lithium 3P et lithium 15, germanium 4, qui n'est rien d'autre qu'un alliage de germanium. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut obtenir. Alors ce qui est intéressant de cette expérience, c'est qu'on peut aller encore plus loin et on peut connaître finalement la vitesse de croissance de cette interface. Et cela a été fait. Et on a comparé cela avec la phase dont je vous ai mentionné auparavant, lithium 3 PS4. Vous voyez dans ce cas que la croissance est nettement supérieure avec cette fameuse phase lithium GPS. Okay. À partir de ces, constantes de croissance, eh bien, on peut extrapoler et on peut voir finalement qu'avec une croissance comme indiqué ici, eh bien, après un an, on aurait une interface qui aurait une épaisseur de 370 nanomètres. Ce qui veut dire une polarisation relativement importante et, bien sûr, une chute de capacité. D'où voilà, si vous voulez, la problématique qu'on a avec ces composés. Alors la question, bien sûr, c'est, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et comment, d'un point de vue chimique, on peut s'en sortir? Eh bien, on va avoir recours, comme toujours en chimie solide, à la substitution. Et vous allez voir qu'en ce cas, eh bien, il va y avoir, une multitude de composés que l'on peut former. Et on va jouer sur la substitution de manière, peut-être un peu intelligente, en essayant de voir comment on peut jouer à la fois sur la stabilité sans affecter la conductivité ionique, ainsi de suite. D'où pour jouer sur la stabilité chimique, on va tout simplement introduire des ions oxydes. Rappelez-vous, lorsqu'on avait vu les oxydes, on avait vu qu'il y a une très bonne stabilité électrochimique, d'où on va essayer d'injecter des oxydes. Ensuite, on peut également, dans ce cas, jouer sur le taux de cation au niveau du phosphore. Parce qu'on a vu que la phase lithium 3 PS4 finalement était plus stable que la phase lithium GPS. Et enfin, pour jouer sur la conductivité ionique, on va directement jouer sur des matériaux à haute entropie, des matériaux avec plusieurs substituants. Alors ça, c'est un jeu qui s'est pratiqué dans tout le domaine. Vous allez voir, les résultats sont nombreux pour sûr. Donc voilà tous les composés qui ont été synthétisés en jouant avec ces différents degrés de liberté. C'est-à-dire en jouant en remplaçant le phosphore par des cations, ou en jouant en remplaçant ici par directement deux types de cations. On peut également ensuite substituer au niveau de l'anion, avec dans ce cas remplacement du soufre par de l'oxygène ou par du sélénium, et ainsi de suite. Et enfin, on peut également jouer avec la phase lithium GPS où je vais changer finalement les différents cations et le composé que je vais jouer ici, qui est la phase oxygène. Donc c'est ce composé dans lequel je vais m'intéresser qui là aussi a conduit à des nouveautés. Alors ce composé, il est préparé toujours pareil par une méthode broyage mécanique, c'est-à-dire synthèse, comme pour ici, suivi d'un chauffage à une température de 500 ou 600 degrés pour donner ce composé, cette phase bien définie, dont la formule est indiquée ici, et qui a une structure toujours pareil tétragonale, avec des changements de connectivité par rapport à notre structure, mais on a toujours, je dirais, ces chaînes allant le long de l'axe C, avec les connexions de tétraèdre, d'octaèdre, ainsi de suite. Et ce composé, eh bien, effectivement, a une conductivité ionique qui est également supérieure à celle de LGPS que j'avais montré ici, où maintenant, eh bien, on peut obtenir 25 millisiemens par centimètre. Donc une fois de plus, on a augmenté la conductivité ionique, et la question fait, est-ce que la stabilité est augmentée? Donc pour ce faire, eh bien, on va encore regarder ces points de stabilité, et pour ce faire, je ne vais pas vous montrer des mesures XPS, parce que je vous ai déjà introduit la technique, mais je vais tout simplement passer sur des mesures d'impédance et vous montrer comment cela a été suivi. Vous avez ici tout simplement une batterie qui a été assemblée avec de telles électrodes, ça c'est la phase électrolyte, on utilise un lamellaire lithium CO2 comme positif, et voilà tout simplement la cyclovoltammétrie. Et vous voyez qu'en fonction du cyclage, eh bien, les pics ou l'amplitude des pics eh bien, évolue, ce qui signifie tout simplement qu'il y a quelque part des réactions d'interface. Et à partir de cela, eh bien, on va faire des mesures d'impédance sur le système et on va voir ce qu'on peut en déduire. Si on fait des mesures d'impédance, eh bien, on s'aperçoit que si on trace le diagramme de Nyquist, eh bien, on voit qu'on a des activités à, je dirais, basse fréquence, fréquence moyenne et haute fréquence, avec ces activités indiquées ici. Par contre, si maintenant je regarde sur le composé qui a été cyclé, vous voyez que dans ce cas, je fais le même tracé, et je m'aperçois que finalement la fréquence de ces anomalies apparaît directement à exactement la même valeur. D'où puisque RC égale 1 sur 2πf, si f est constant, ça veut dire que RC est constant. Et ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, ce qui se passe, c'est-à-dire que j'ai tout simplement une diminution de la capacité et une augmentation des interfaces. D'où dégradation, une fois de plus, de réactivité aux interfaces dans le cas de ces composés. Et bien sûr, dans ce cas, eh bien, il est quand même difficile de savoir laquelle des interfaces est, je dirais, responsable pour ces larges augmentations, et cela nécessitera, comme on le verra par la suite, des mesures 3 électrodes pour apporter une solution. Tout ça, c'est une façon de faire, et enfin, finalement, une façon encore plus simple, peut-être, de regarder cette réactivité, eh bien, est indiquée sur ce transparent, où là, eh bien, ce que je fais, j'assemble tout simplement trois types de batteries tout solides, l'une avec la phase LPS, l'autre à la phase LGPS, et avec cette dernière phase. Je vais directement charger cette batterie. Vous apercevez ici que lorsque je reviens à l'état déchargé, regardez la perte de capacité. Elle est moindre pour le composé LPS que pour le composé LGPS2 et que pour le composé récemment synthétisé avec la substitution au chlore. Donc ça veut dire qu'en ce compte-là, une fois de plus, j'ai une meilleure conductivité ionique, mais j'ai encore une réactivité plus importante. Et réactivité que l'on peut de plus suivre par les mesures d'XPS, où on aperçoit finalement la même histoire que je vous ai montré auparavant, avec la croissance de phase lithium 2S, de phase lithium 3P, et ainsi de suite. D'où le résultat de tout ça, eh bien, vous apercevez que lorsque je m'amuse à cela, eh bien, malheureusement, chaque fois que je vais directement augmenter la conductivité ionique, pour des raisons qu'on essaiera de comprendre, eh bien, je vais tout simplement affecter la stabilité électrochimique des produits. C'est-à-dire que ce composé, qui a une très bonne conductivité ionique, eh bien, s'avère tout simplement être des moins stables et montrer une plus grande réactivité à l'électrode négative, notamment vis-à-vis du lithium. D'où, une fois de plus, la question, c'est est-ce qu'on peut finalement contrecarrer cela et préparer de meilleurs matériaux? Alors là aussi, là je vais arriver finalement à un papier qui est sorti il y a seulement 6 mois, où des chercheurs ont tenté de faire cela, bien sûr en prenant l'approche dont je vous ai déjà introduite, qui est l'approche de, je dirais, dessiner, construire, élaborer des matériaux sur le principe des matériaux aux entropies. Dans ce cas, vous avez tout simplement ici, je dirais, les valeurs de la stabilisation par l'entropie de configuration. Et vous voyez que bon, tous ces matériaux sont bien cassés. Mais par contre, ces auteurs, notamment c'est le groupe du professeur Cano, a tout simplement repéré un autre indicateur qui est relativement important, un indicateur structural qu'il appelle T, qui est tout simplement le rapport de la somme du volume des anions sur la somme des volumes des cations. Et vous apercevez que lorsqu'on classifie tous ces matériaux, eh bien, on tombe directement dans ce domaine. Donc par conséquent, sur cette base, alors pourquoi ce rapport T est important? Parce que c'est ce rapport qui va définir finalement la contribution structurale. C'est-à-dire, c'est grâce à la structure que vous avez ces conductivités. Donc automatiquement, il faut une structure adéquate, on verra par la suite pourquoi, pour avoir ces conductivités. Et ensuite, on joue sur l'entropie de configuration. D'où, grâce à ça, eh bien, là aussi, il a pu synthétiser un matériau dont la formule est indiquée ici, ou ici, en faisant une double substitution, je dirais, au niveau des cations, c'est-à-dire au niveau du phosphore, et également au niveau de l'anion, c'est-à-dire X en remplaçant par Cl et par l'oxygène. D'où, toujours pareil, des méthodes de synthèse identiques, la synthèse ne change pas beaucoup notre différentes phases, eh bien, on peut, toujours pareil, par broyage, où il y a temps de réaction, avec des températures de chauffage de 475 degrés, eh bien, obtenir, je dirais, une nouvelle phase, dont la structure est toujours pareil, une structure tétragonale, avec certainement des différences au niveau de la distorsion des sites de lithium, et ainsi de suite. Et cette phase, eh bien, effectivement, elle montre une conductivité ionique qui est, je dirais, relativement importante, finalement, qui est la valeur la plus haute aujourd'hui obtenue parmi ces matériaux, qui est de 32 millisiemens, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, où en sont les recherches sur ces matériaux. Alors, pour revenir finalement à l'importance de ce résultat, eh bien, au niveau application, eh bien, vous voyez que je vous ai fait, au début de ce cours, je vous ai montré la différence entre 1 millisiemens et 10 millisiemens, et là, on en est à 32 millisiemens. Donc, par conséquent, et ce qui fait, je dirais, l'intérêt de ce papier, c'est que ces chercheurs ont essayé de démontrer le bienfait d'avoir ces conducteurs ioniques à haute sigma. Et ici, eh bien, je vais avoir plusieurs courbes, je vais vous montrer. Tout d'abord, eh bien, finalement, quelle va être directement la capacité de ce matériau. Et là, vous êtes en train de regarder ce qui est vraiment important, des électrodes d'épaisseur 800 microns. Aujourd'hui, dans les technologies lithium-ion commerciales, vous avez des épaisseurs de 150 à 200 maximum. Ensuite, eh bien, vous avez des taux de matière active par centimètre carré qui sont, dans ce cas, aux alentours de 245 mg comparé à, je dirais, 20 ou 30 mg dans le lithium-ion aujourd'hui. Et grâce à cela, eh bien, on peut obtenir, vous voyez, une efficacité d'utilisation qui est à peu près 100%. Alors bien sûr, ici, regardez, le régime est relativement faible, c'est du 0,0,20C. Par contre, regardez la densité surfacique ou la capacité surfacique qui est relativement importante. Et ce résultat, effectivement, je dirais, se différencie de tous les travaux jusqu'à maintenant, puisque vous voyez, la progression au cours du temps et effectivement, ce travail, c'est celui qui a permis d'obtenir, je dirais, de meilleurs résultats. Alors maintenant, si on regarde ce qui se passe ensuite en température, eh bien là aussi, si on regarde ce matériau en température, et si on regarde les performances, que ce soit en termes de capacité surfaciale ou alors de capacité de rétention, eh bien on s'aperçoit que les points rouges, qui représentent finalement les performances de ce matériau, sont nettement meilleurs que tout ce qui avait été rapporté aujourd'hui. Donc définitivement, cela indique fortement qu'avoir ces électrolytes à haute conductivité ionique est relativement importante. Bien sûr, là aussi, ce serait intéressant d'avoir finalement un calcul volumique, parce que bon, les électrodes sont très épaisses et, je dirais, les capacités déchargées sont pas terribles. Alors bien sûr, la question qui revient, c'est maintenant, est-ce que ce matériau est vraiment l'idéal, une fois de plus, d'un niveau stabilité? Alors pour ce faire, eh bien, la manip qu'on peut effectuer, qu'on effectue de façon classique dans les laboratoires, c'est que maintenant, eh bien, je vais tout simplement prendre ces accumulateurs et les charger à haut potentiel, c'est-à-dire en oxydation. Et lorsque je fais ces mesures d'oxydation, je vais être directement relativement conservatif, Je vais ici m'arrêter à 3,5 volts et attendre, je dirais, plusieurs heures. Ici, je vais aller à 3,8 volts et 4 volts. Et je vais regarder tout simplement quelle va être l'évolution, dans ce cas, eh bien, du spectre d'impédance ou du diagramme Nyquist pour ces différents matériaux. Et vous apercevez qu'effectivement, lorsque je vais à 3,8 volts, au fur et à mesure que j'augmente le temps à ce potentiel, eh bien, j'ai une augmentation drastique de la résistance interface, et cela ne fait qu'empirer lorsque l'on va à, je dirais, 4 volts. Okay ? Et ça, c'est, je dirais, c'est des manips qui sont effectuées vis-à-vis d'une électrode d'indium-lithium, c'est-à-dire qu'on est dans ce cas à des potentiels de 4,6 volts vis-à-vis du lithium-ion, ou dans ce cas 4,4. D'où là aussi, il y a eu des améliorations conséquentes au niveau de ce matériau, mais pour, je dirais, des applications pratiques sur des années, eh bien, là aussi, il faut encore modifier et maîtriser cette interface. Et finalement, le dernier point que je voudrais vous répondre ici, c'est pourquoi ces matériaux ont une conductivité ionique importante. Eh bien, cela va être, on peut tout simplement relier à la structure de ce matériau. Du moins, c'est des résultats qui ont été publiés par le groupe de Gerd-Seder à Berkeley, qui a montré finalement qu'on pouvait, dans ces structures, eh bien, comprendre une meilleure conductivité ionique. Pour la bonne et simple raison, c'est que dans cette structure LGPS, eh bien, si on regarde le réseau anionique, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une structure BCC, c'est-à-dire que dans ce compte-là, vous avez deux tétraèdres qui partagent des faces. Et ce que j'avais montré lors du premier cours, c'est la situation idéale pour avoir des énergies d'activation relativement faibles. Vous voyez qu'en ce cas, c'est simplement une transformation ou un passage ou un chemin de diffusion entre une structure ou un site tétraédrique, eh bien, j'ai une énergie d'activation qui est 0,15 électronvolt, alors que si je vais dans des systèmes relativement plus compliqués, où j'ai directement, dans ce cas, eh bien, à traverser un octaèdre, c'est-à-dire tétraèdre, octaèdre, tétraèdre, eh bien, j'ai des énergies beaucoup plus importantes, et dans ce cas ici, relativement complexe, où je fais tétraédrique, octaédrique, ainsi de suite, vous apercevez que les activations d'énergie sont, dans ce cas, très limitantes, raison pour laquelle eh bien, la plupart de ces matériaux eh bien, vont tout simplement eh bien, avoir ce fameux réseau anionique BCC. Alors la question qui se pose ici, c'est est-ce que ça, c'est écrit dans le marbre, et est-ce que c'est vraiment la limitation ou la raison principale ? Eh bien, pour répondre à cela, eh bien, je vais tout simplement introduire la troisième famille de matériaux qui peut vous donner déjà la réponse, qui n'a pas du tout ce réseau anionique BCC, et vous allez voir qu'il y a de très bonnes conductivités ioniques également. Et ça va m'amener directement à la troisième série de matériaux que je voudrais commencer, qui sont les argyrodites. Alors les argyrodites, eh bien, ça aussi, c'est des matériaux qui ne sont pas nouveaux, puisque, regardez, l'argyrodite est un minerai qui date des années 1986, qui avait été directement découvert par Winkler, dont la formule est Ag8GeC6. Et ce matériau, eh bien, là aussi, eh bien, il va, je dirais, être idéal pour faire des conducteurs ioniques, puisqu'il y a toute une chimie de substitution qui est gigantesque. On va pouvoir substituer au niveau de l'argent, on va pouvoir substituer au niveau du germanium, et on va pouvoir substituer au niveau du soufre. Et là aussi, vous allez voir, le nombre de composés qui ont été réalisés, qui est relativement phénoménal. Alors ces composés, ils étaient connus, la chimie avait été effectuée, et ils existent sous deux formes cristallographiques. Une forme basse température, orthorhombique, de coupe d'espace PNA de 1, et une forme directement cubique, F4-3. Et cette forme cubique, en présence de lithium, a été découverte par un chimiste allemand, Düsseldorf, dans les années 2008. Et ça a été, une fois de plus, le renouveau de cette famille de matériaux avec des études, je dirais, conséquentes. Alors la structure de ce composé, c'est une structure cubique dont je vais mentionner, je vais prendre le temps de vous mentionner comment elle est constituée, car là aussi vous allez avoir des problématiques d'occupation de sites très importants. Alors c'est une structure cubique de formule indiquée ici, lithium 7, PS4, avec les positions de Wyckoff ici, et voilà directement la position du soufre indiqué ici. Ensuite, eh bien, je vais avoir directement ce soufre ici qui va être en position de Wyckoff 4C. Il va y avoir beaucoup d'interactions entre ces deux sites, c'est-à-dire des mélanges de cations entre ces deux sites, et ça va être clé pour les conductivités ioniques. Ensuite, eh bien, on va tout simplement remplir la structure en y mettant maintenant les tétraèdres PS4, Donc les tétraèdres PS4 vont aller se loger ici avec, je dirais, parmi les atomes de soufre. Et enfin, on va y mettre la quantité gigantesque de lithium, qui est lithium-7. Alors ce composé, d'un point de vue, je dirais, écologique, si je peux dire, n'est pas terrible, parce que regardez le nombre de lithium qu'il vous faut par formule. Okay. Et lithium-7 pour avoir directement une quantité ionique. D'où, comme vous pouvez voir ici, eh bien, tout ça, c'est un jeu qui va être fertile pour, une fois de plus, pour les chimistes du solide, pour faire la substitution. Et en effet, on va pouvoir faire la substitution dans tous les sites. Dans le cas du lithium, eh bien, on va pouvoir tout simplement remplacer le lithium monovalent par des cations divalents, trivalents, d'où, eh bien, si je fais ça automatiquement, regardez ici, c'est quand même important, je vais diminuer la quantité de lithium, je vais créer des lacunes, je vais pouvoir directement dans la conduction lacunaire. Ensuite, je vais pouvoir tout simplement maintenant ici eh bien, remplacer le site phosphore par des cations. Et là aussi, ça devient intéressant, parce que maintenant, si je mets des cations tétravalents, ça veut dire que chaque fois que je vais mettre un cation trivalent, il faut que je balance ma charge, donc je vais apporter de nouveau un lithium. Et je vais avoir dans ce compte-là des composés qui sont très chargés en lithium. Et là aussi, c'est quand même bon. Et enfin, eh bien, on va pouvoir faire des substitutions sur, je dirais, le site anionique, c'est-à-dire le soufre, en remplaçant ce soufre eh bien, par les halogènes, comme le chlore, le brome et l'iode. Okay. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on va faire. Alors la question, c'est finalement, c'est j'ai cette structure, j'ai toutes ces possibilités, et comment je vais faire pour augmenter la conductivité ionique? La conductivité ionique, je vous ai mentionné dans le premier cours, qu'on peut l'augmenter en changeant le nombre, je dirais, de mélange entre différents sites, le nombre de défauts, mais également la concentration des défauts. Et ces défauts, ça peut être des lacunes, ça peut être des intersites, ou ça peut être directement des cations. Alors on va tout simplement regarder ce qui se passe au niveau des anions. Alors si je pense au niveau des anions, bien vous voyez, c'est directement c'est un mélange de sites que l'on peut regarder, et on va essayer de faire des composés. Alors bien sûr, comme on avait vu l'an dernier dans le cas des lamellaires, si je veux faire, ou si je veux arrêter cet échange directement entre différents sites, il suffit tout simplement que j'utilise deux gros, ou un gros et un petit, et là je suis sûr que c'est fini, il n'y aura pas de mélange entre ces deux sites. Et effectivement, si vous voulez bloquer l'échange anionique entre ces structures, vous faites le composé avec le soufre et l'iode. Et là, c'est parfait. Par contre, maintenant, si vous remplacez tout simplement l'iode par le brome ou par le chlore, eh bien là, vous allez introduire des ordres. Et vous voyez ici, indéfiniment, et vous voyez que la conductivité, eh bien, elle est fonction du désordre. C'est-à-dire, si je veux augmenter la conductivité, eh bien, dans ce cas, je suis obligé d'introduire du désordre sur ces sites. Et c'est comme ça que les chercheurs ont préparé des composés avec des substitutions au chlore et à l'iode. Alors ensuite, un autre paramètre qui est important, et tout simplement, va être la délocalisation de la densité du lithium, qu'on peut obtenir par des mesures neutroniques. Et vous avez ici, finalement, la position du lithium. Vous avez cette couronne dans laquelle vous avez une délocalisation du lithium, et on va tout simplement mesurer cette distance moyenne entre le centre de cette couronne et l'atome principal qui est le soufre. Et là aussi, si on trace cette distance moyenne, eh bien, en fonction du désordre, vous voyez que, bien sûr, plus la distance va augmenter, plus le désordre va augmenter, et ce qu'on sait, c'est que si on augmente le désordre, eh bien, la conductivité ionique va augmenter. Donc voilà directement ce que l'on peut obtenir dans de tels matériaux. Et enfin, eh bien, on peut ensuite, en dehors de jouer avec la solution pour les anions, on peut revenir sur les cations, et comme je vous l'ai mentionné, si on revient sur les cations, le but, l'intérêt, c'est finalement d'essayer d'augmenter la concentration du lithium dans ces composés. D'où tout le jeu de la substitution cationique dans lequel on va tout simplement remplacer le phosphore par des cations halovalents. Et notamment, on va utiliser ici toutes les combinaisons du silicium, on va utiliser dans ce cas du germanium, ou alors même un pentavalent avec l'antimoine. Et dans ce cas, eh bien, on va avoir des, je dirais, compositions lithium plus X. Ça veut dire que je vais introduire des sites lithium interstitiels qui vont avoir un niveau énergétique plus élevé que lithium classique et qui vont, dans ce cas, eh bien, tout simplement abaisser ma barrière énergétique. Et c'est grâce à cela que je peux tout simplement augmenter la conductivité ionique dans ces systèmes. Okay. D'où, voilà, c'est un peu donner une idée des différents leviers avec lesquels je vais pouvoir jouer avec ces différentes substitutions. Et maintenant, eh bien, on va rentrer un peu, juste pour terminer, 3 ou 4 minutes, comment on va faire cela. Alors comment on va faire cela? Je crois que ce n'est plus une surprise pour vous maintenant. Eh bien, on va toujours revenir aux méthodes de Vogue, c'est-à-dire, il y a plusieurs anions possibles, il y a plusieurs cations possibles. on va tout simplement jouer sur l'entropie de configuration pour aller stabiliser de nouvelles phases et voir, ce qui est important, quel va être l'effet de cette entropie de configuration, c'est-à-dire est-ce qu'augmenter l'entropie de configuration va à tout prix nous donner directement une meilleure conductivité ionique. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout évident. D'où par conséquent, eh bien, on va tout simplement tenter de synthétiser de tels matériaux en jouant sur la substitution ici, qui est la substitution anionique, de ce côté, voyez, en mettant deux ou trois éléments, et ainsi de suite, même dans ce cas simple. Ensuite, sur la substitution cationique, en mettant cette fois cationique et anionique, et l'autre. Et ça, d'ailleurs, c'est des travaux qui ont été faits par un Allemand qui a fait sa thèse au laboratoire au Collège de France sur ces composés. Alors, bien sûr, on va tout simplement, dans ce principe, eh bien, on va avoir ces phases et on va calculer finalement quelle est l'entropie de configuration de ces phases. Alors ça, je voulais traiter le premier cours, vous êtes familier avec ça, on a les structures, et on va tout simplement appliquer la formule où on va tout simplement regarder l'entropie de configuration associée aux cations, aux anions, en prenant seulement les quantités molaires de ces différents éléments. Et on arrive aux valeurs d'entropie de configuration qui varient de 1,24 à 2,28, à 2,98 et à 2,117. D'où, vous voyez que là, théoriquement, mais je m'attendrai à avoir des conductivités ioniques relativement élevées. Bon, on va voir ce qui se passe. Donc, on va refaire les synthèses de ces matériaux. Alors là, aucune nouveauté, hein. Tout simplement, broyage, de nouveau chauffage, cette fois dans un tube scellé, pour obtenir toutes ces différentes phases. Et ensuite, eh bien, on va essayer tout simplement de relier, une fois de plus, tout cela aux propriétés physico-chimiques par des mesures de l'ordre à courte distance, car on veut savoir finalement comment, quelle est l'occupation de ces sites, l'ordre à longue distance, la stabilité électrochimique, ainsi de suite. Alors si on fait cela, eh bien, on peut, dans ce cas, eh bien, obtenir tous ces matériaux, et effectivement, comme on peut voir ici, eh bien, une fois de plus, effectivement, en jouant avec ces multi-éléments, on peut obtenir des matériaux relativement bien cristallisés et qui sont monophasés, comme indiqué ici. À partir de cela, eh bien maintenant, si je veux comprendre ce qui se passe, eh bien, où sont ces éléments dans cette structure, et je vais être obligé de faire des analyses un peu plus sophistiquées, notamment des analyses de distribution de paire-fonction, PDF, où je vais avoir les distances entre les différents tétraèdres, les différentes espèces. Je peux faire des mesures de RMN pulsé, comme vous voyez ici en bas, et ces mesures, qu'est-ce qu'elles vous donnent? Eh bien, elles vous montrent, tout simplement qu'en ce cas, eh bien, ce qui n'est pas une surprise, hein, je fais une substitution par du sélénium ici, et bien vous voyez qu'en ce cas, j'ai mes PS4 qui contiennent un sélénium, deux séléniums, trois séléniums, quatre séléniums, au fur et à mesure que j'augmente la quantité. Alors ensuite, vous pouvez faire des mesures de synchrotron, et par ces mesures de synchrotron, eh bien on peut maintenant affiner et tout simplement arriver à faire l'attribution de ces différentes espèces dans les différents sites ou dans les différentes positions de Virchow, dont je vous ai mentionné auparavant. Et vous voyez en ce cas la complexité, si je peux dire, de ces attributions, pour montrer que lorsqu'on fait ces matériaux à haute entropie, eh bien, il y a un désordre relativement conséquent, avec certains, si vous regardez en détail, mais ce n'est pas le but ici, de vous montrer qu'il y a certains éléments qui préfèrent aller dans certains sites que d'autres, mais il y a quand même, je dirais, une migration relativement conséquente. Alors la question que vous pouvez me dire, c'est finalement, de tout ça, qu'est-ce qui sort? Eh bien, vous allez voir que finalement, eh bien, quand on fait cela, eh bien, le résultat n'est pas du tout, je dirais, convaincant, puisque ici je vous ai tracé tout simplement la conductivité ionique en noir, voyez, et ici n'oubliez pas, je suis passé de 1,24, ça y est marqué ici d'ailleurs, l'entropie, voilà, j'ai augmenté l'entropie, excusez-moi, c'est ici, voyez, j'étais passé d'ici ici, et je m'aperçois qu'en ce cas, eh bien, il n'y a pas une corrélation directe avec tout simplement les valeurs de conductivité que j'obtiens. Donc le but de tout ça, c'est-à-dire que cette préparation de matériaux à haute entropie, eh bien, il y a effectivement le concept, il y a des possibilités, je dirais, d'obtenir la meilleure conductivité ionique, mais surtout, ce n'est pas une condition nécessaire ou suffisante. Il se peut que ce soit un avantage, mais comme vous pouvez voir ici, eh bien, il y a des cas, notamment dans le cas des substitutions ioniques, où, je dirais, ça ne marche pas du mieux. Alors, on verra la prochaine fois que dans le cas du composé où je vais maintenant substituer au niveau des cations, eh bien, effectivement, j'ai une meilleure corrélation entre cette entropie de configuration et la conductivité ionique. Donc voilà. C'est un peu, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter aujourd'hui sur ce cours, sur ces fameuses phases, ces sulfures, et ainsi de suite. Et là, je voudrais m'arrêter Et puis après, je vais passer la parole à Frédéric Hanoufi qui va vous donner un autre aspect total de tous ces cellules solides. C'est plutôt comment on peut maintenant, ces interfaces, j'espère, les voir d'un point de vue microscopie optique et apporter des informations importantes. Merci bien.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.